Bonjour à chacun. Merci pour cette bonne nouvelle, Jean-Pierre. Vous avez une surprise ce matin, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, de voir que c'est mon nom qui était affiché pour la prédication et c'est vraiment moi qui apporte la prédication, contrairement à la dernière fois où lorsque mon nom était affiché, c'était mon mari qui était apparu sur scène. Cette fois, c'était une bonne nouvelle pour vous. Mais aujourd'hui, ce sera moi. Apparemment, on est tellement fusionnels qu'on peut échanger nos places. Mais cette fois, j'ai la chance d'être avec vous ce matin pour partager un texte. Et je voulais commencer cette prédication et finalement aussi ce culte entier par une question que je vous pose. Pourquoi êtes-vous venu à l'église ce matin ? Alors, ce n'est pas une question à laquelle j'attends forcément une réponse. Je vous laisse y réfléchir à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Qu'est-ce qui vous pousse chaque dimanche à aller à l'église ? Comment finalement répondre à l'appel de Dieu, vivre une vie chrétienne qui soit généreuse, qui soit pleine de sens pour nous et pour les autres. Alors, aujourd'hui, on a un culte qui est dans un ordre inversé, comme Jean-Pierre l'a présenté. Et je vous propose ce matin, plutôt que de rentrer dans un temps de louange, puis d'avoir un message comme on a l'habitude de le faire. Alors, ça permet pendant le temps de louange de se sortir un peu du sommeil, de rentrer petit à petit dans ce temps de culte. Ce matin, je vous propose de redécouvrir ensemble les fondements de notre foi chrétienne qui, je l'espère, vont nous pousser à louer notre Dieu ensemble. Redécouvrons comment vivre une vie chrétienne généreuse, si ça marche. Ça avance pas. Je sais pas si on peut... Hop. Voilà, ça va y aller. Ça y est. Alors, je vous invite à la lecture de ce texte en hébreu, qui est un peu abrégé là. Hébreu 10, les versets 19 à 25. Et alors, je vous invite soit à la lecture de ce texte avec moi, ou en tout cas à l'écouter. Ainsi donc, frères, nous avons, frères et sœurs, je précise, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne désertons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est un beau texte, n'est-ce pas ? Un texte dense en même temps, il y a beaucoup de choses. Dans les chapitres qui précèdent ce texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous décrit la supériorité du culte présent, du culte actuel, par rapport au culte de l'Ancienne Alliance, de la Première Alliance, celle de l'Ancien Testament. Dans la Première Alliance, il y avait, je ne vous l'apprends pas, un temple terrestre auquel on se rendait pour célébrer le culte, pour offrir des sacrifices. Il y avait un grand prêtre humain, qui était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et puis on offrait des sacrifices, des animaux, des victimes animales, et qu'on devrait offrir régulièrement pour le pardon des péchés. Mais le culte actuel, comme nous l'apprend l'Épître aux Hébreux, a lieu dans un endroit céleste, un sanctuaire céleste. Alors bien sûr, on a le bâtiment de l'Église, on se réunit ici, on est venu ce matin dans ce bâtiment d'Église, mais notre culte, il a lieu là-haut, dans un lieu céleste. Il a lieu grâce à notre grand prêtre, qui est Jésus, à la fois Dieu, à la fois homme, un grand prêtre parfait et céleste. Et puis, notre seul sacrifice, c'est celui que Jésus a fait pour nous, la victime parfaite, céleste, l'agneau de Dieu qui a été donné une seule fois pour toutes. Et cette redéfinition du sens même du culte qui est présentée dans les chapitres précédents nous nous apporte maintenant dans ce texte que nous avons lu tous les privilèges de notre vie chrétienne, les privilèges inouïs que nous avons en tant que chrétiens. Et c'est ces fondements-là de foi que j'aimerais redécouvrir avec vous ce matin, que nous puissions redécouvrir ensemble ce qui nous pousse à être chrétiens, pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous venons à l'Église. Cette nouvelle alliance, tout ce que Jésus a accompli, sa mort, sa venue sur terre puis sa mort, si on veut aller dans le bon sens, sa résurrection, le pardon de nos péchés, toutes ces choses-là, elles nous donnent les fondements de notre foi. C'est une assurance pour toute notre vie chrétienne, c'est ce qui base, ce qui fonde notre foi. C'est le moteur de notre bateau et c'est ce qui nous pousse à venir au culte, à vivre dans une communauté chrétienne. Le premier fondement qui est présenté dans le texte, c'est cette assurance de posséder un libre accès au sanctuaire. C'est pas rien, un libre accès au sanctuaire. À l'époque du culte dans le temple, c'était le prêtre qui pouvait se rendre une fois par année dans le lieu très saint, le Saint des Saints, une seule fois par année pour tout le peuple. Aujourd'hui, nous, on a ce libre accès dans le sanctuaire, un libre accès à la présence de Dieu, un libre accès dans la prière pour parler avec Dieu, pour lui apporter nos requêtes, pour lui demander pardon, pour lui demander conseil. On a cette paix intérieure de savoir qu'on est tous accueillis auprès de Dieu et qu'on reçoit le pardon de nos péchés, qu'il écoute nos prières. Et ce fondement de foi, ce libre accès, ce n'est pas une illusion, quelque chose qu'on rêve, quelque chose qu'on pense avoir, mais c'est un fondement qui est basé sur un événement objectif et historique, la mort de Jésus à la croix, qui nous a ouvert cette voie vers le Père. C'est Jésus-Christ qui a inauguré ce chemin que nous pouvons emprunter pour aller vers le Père. Dès lors, nous savons que nous avons d'ores et déjà un pied dans ce sanctuaire céleste. Nous sommes déjà dans cette présence de Dieu, même si la présence complète, totale, pleine et parfaite de Dieu est encore à venir. Mais nous sommes déjà dans ce sanctuaire céleste. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Amen. Et cette nouvelle voie que Jésus a ouverte et qu'on peut emprunter, elle est comparée au verset 20 à un chemin vivant. Vous vous rappelez de cette parole dans les évangiles où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus, il est à la fois présenté comme celui qui ouvre ce chemin dans l'Épître aux Hébreux et comme le chemin, tout simplement. Il ouvre le chemin et il est le chemin. C'est un chemin vivant. C'est assez paradoxal de parler d'un chemin vivant pour accéder à Dieu, puisque jusqu'à présent, le seul moyen d'accès à Dieu, c'était d'avoir recours à la mort d'un animal, au sacrifice d'un animal. C'était par la mort, par le sang, qu'on pouvait être pardonné, être en relation avec Dieu. Mais maintenant, dans le culte actuel, c'est un chemin vivant qui nous est proposé. Alors pourquoi on parle de ce chemin vivant? On peut envisager trois explications à ce chemin vivant. Premièrement, parce que ce chemin, c'est pas une chose, c'est pas quelque chose de matériel, c'est justement Jésus lui-même qui est vivant. Et puis, c'est ça. Lui qui est vivant et ressuscité. Et l'autre chose, c'est que ce chemin, il nous mène à la vie. C'est un chemin qui nous mène à la vie éternelle. C'est un chemin par lequel on peut entrer pour accéder à cette vie éternelle à tout jamais. C'est un chemin vivant. Et pour finir, il y a un dernier fondement de la foi qui ressort de ce texte et qui vient appuyer notre foi. C'est le fait que Jésus est le grand prêtre établi sur la communauté des croyants. C'est le grand prêtre sur cette communauté qu'il s'est acquise lui-même. Cette communauté, c'est nous. C'est nous tous ici réunis dans cette église, nous tous aussi avec les autres chrétiens du monde entier. Nous tous, nous sommes la maison de Dieu, la communauté des croyants. Et Jésus, ce grand prêtre qui nous a ouvert le chemin vers le Père, Il a payé le prix pour que nous ayons cet accès au Père. Et il nous affirme par son sacrifice que nous pouvons accéder au Père par ce chemin vivant et qu'il est celui qui dirige la communauté, qui la dirige dans le culte pour que notre culte corresponde à la volonté de Dieu. Alors ces fondements de la foi qui sont présentés au début du texte que nous avons lu, ils sont utiles bien sûr pour nous, ils nous rappellent notre foi, ils nous rappellent notre espérance, ils nous rappellent qui nous sommes en tant que chrétiens, pourquoi nous sommes chrétiens. Ils sont aussi utiles pour édifier ceux qui nous entourent, pour que nous puissions nous encourager les uns les autres, en nous rappelant peut-être ces fondements de foi quand l'un ou l'autre de nous a des doutes, a peur, se demande où est Dieu. Si nous sommes certains de ces fondements de foi, nous pouvons édifier les autres. Et c'est aussi le rôle de la communauté. Et puis ces fondements, ils sont aussi utiles pour parler de l'amour de Dieu autour de nous, pour parler de l'amour que Jésus-Christ a manifesté à la croix. Ces fondements, si nous en sommes certains, nous pouvons les partager autour de nous, avec foi et certitude, avec assurance. Alors ce rappel des fondements de la foi n'est pas sans conséquence pour nous, finalement. Si Dieu nous ouvre ce chemin, qu'est-ce que nous allons faire? Si Dieu nous ouvre ce chemin, est-ce qu'on peut rester passif par rapport à cette opportunité? Mais la suite du texte, justement, nous encourage à plusieurs choses à mettre en pratique. Et le premier groupe de choses, elles sont en lien avec Dieu, avec notre relation à Dieu. Comment cultiver une relation juste avec Dieu? Ces vérités de foi, elles doivent nous pousser à l'action. Alors nous sommes tous invités à nous engager sur ce chemin ouvert. Le texte dit « Approchons-nous donc ». Approchons-nous donc de Dieu. J'aime beaucoup ce « nous » qui apparaît. Je trouve que ce n'est pas anodin que le texte dise pas « Approche-toi donc ». Toi, « Approche-toi donc de Dieu ». Non, c'est « nous ». Approchons-nous donc. En communauté, ensemble, frères et sœurs, approchons-nous donc de Dieu. La foi, elle nous rassemble. Elle nous permet de vivre un culte en commun. Elle nous permet d'avancer ensemble sur ce chemin, justement en nous encourageant les uns les autres. Cette voie, elle est ouverte. Le chemin, il est inauguré. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous approcher toujours plus près de Dieu. Dans le culte de l'Ancienne Alliance, s'approcher de Dieu, c'était dans une dimension spatiale, d'une certaine manière. C'était accéder jusqu'au Saint des Saints, jusqu'au lieu où Dieu révélait sa présence. Ici, dans ce texte, il ne s'agit plus de s'approcher, comme vous viendriez d'Arzier, de Saint-Sergue, etc., jusqu'à la fraternelle. Il ne s'agit pas de s'approcher d'un lieu de culte, mais de s'approcher dans une dimension personnelle, dans une communion avec Dieu. En même temps, c'est aussi une notion de lâcher prise, finalement. S'approcher de Dieu, c'est accepter de lui faire confiance, c'est reconnaître qu'on a besoin de lui, qu'on choisit de le suivre, qu'on croit qu'il existe, qu'il est puissant, qu'il peut nous guider, qu'il est bienveillant aussi, qu'il prend soin de nous. C'est finalement du lâcher prise, s'approcher de Dieu. Et ce matin, est-ce que nous sommes prêts à nous approcher de Dieu? Évidemment, je pense que la plupart d'entre nous nous sommes tous approchés de Dieu à un moment donné dans notre vie, quand nous avons choisi de répondre oui à son appel, lors de notre conversion, de notre baptême, lorsque nous avons pris une décision personnelle. Mais l'approche que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande ici, il ne s'agit pas de cette approche-là qu'on a faite il y a quelques années ou de nombreuses années. D'ailleurs, c'est intéressant de relever que le temps de verbe qui est utilisé ici, ce n'est pas un temps qui dit « en un instant, approchons-nous donc de Dieu », mais c'est un temps de verbe qui va sur la durée. Approchons-nous de Dieu encore et encore et encore et encore. Finalement, il faut constamment veiller à s'approcher de Dieu, constamment veiller à demeurer dans la présence du Seigneur. cette relation à Dieu, elle requiert une constante volonté d'adhérer à ses fondements de foi et de nous approcher de la présence de Dieu. Et cette approche de Dieu, elle requiert aussi des conditions. C'est le texte qui nous le dit. Il y a des conditions appropriées pour oser s'approcher d'un Dieu qui est trois fois saint, qui est souverain. La première condition, c'est un cœur sincère. Facile ou pas facile? Un cœur sincère, ça paraît simple, c'est deux mots simples, on les comprend, mais finalement, quelle exigence redoutable d'avoir un cœur sincère, un cœur vrai. Est-ce que vous savez d'où vient le mot « sincère » en français? L'étymologie du mot « sincère », est-ce que quelqu'un a une idée? Sans cacher quelque chose, ouais, on s'approche, en tout cas. Entier, ouais. Ouais. Sincère, c'est ça. Ceux qui habitent à Saint-Cergue sont peut-être plus près du cœur de Dieu. Sincère, en fait, ça vient du latin « sincera », qui veut dire « sans cire ». Et en fait, à l'époque, lorsque les brocanteurs, disons, revendaient des meubles ou bien des ustensiles, s'ils étaient un peu ébréchés ou rayés ou quelque chose, on avait coutume de mettre un peu de cire dessus pour cacher le trou, la faille, et puis permettre à l'acheteur d'avoir de la poudre aux yeux et puis de mettre un bon prix pour un objet qui était finalement un peu abîmé à l'usure. Alors, cette étymologie, elle est intéressante finalement. Ayons des cœurs qui soient sans cire, qui soient vrais, vrais aussi dans nos difficultés, dans nos faiblesses, vrais avec nos défauts, avec qui nous sommes, mais vrais devant Dieu, sincères. Et puis, il y a une seconde condition qui est exigée pour pouvoir s'approcher de Dieu, c'est d'avoir un cœur purifié. Et cette condition-là, en fait, elle peut être remplie que parce que Dieu nous offre la purification du cœur par l'œuvre du Christ. Et finalement, cette seconde condition, elle n'est pas tellement de notre sort, elle est due à la grâce de Dieu et à l'œuvre purificatrice, bienveillante de Dieu. Et finalement, la troisième condition encore exigée est celle d'un corps lavé d'une eau pure. Alors, bien sûr, on y voit tout de suite le baptême, le corps lavé d'une eau pure. Peut-être aussi que ce corps lavé d'une eau pure indique, sans parler du baptême, du fait d'être nettoyé, purifié dans notre corps. Et ce lien entre le cœur purifié et le corps purifié indique que Dieu exige que nous soyons entièrement renouvelés, entièrement purs pour pouvoir nous approcher de Dieu. Et encore une fois, cette condition d'un corps lavé d'une eau pure, on ne peut pas l'arracher, on ne peut pas l'acquérir nous-mêmes, c'est Dieu qui nous l'offre, d'être purifié. Alors finalement, sur trois conditions, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment de notre sort, et Dieu nous fait la grâce de nous donner les deux autres. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous approcher de lui. C'est un Dieu merveilleux, plein de générosité que nous avons. Et puis le texte ne s'arrête pas là. Ça, c'est bon pour nous, nous approcher de Dieu. Je pense qu'on est tous, on dit tous amen à cela. On veut toujours s'approcher plus de Dieu, vivre dans sa présence. Mais le texte ne s'arrête pas là, il nous donne aussi d'autres recommandations, d'autres choses à mettre en œuvre pour répondre à ce que Dieu a fait pour nous. Et ces autres choses, elles sont tournées vers nos proches. Elles sont tournées vers les gens qui nous entourent. La certitude du salut nous apprend à nous approcher de Dieu, mais elle nous pousse à nous mettre en action à l'extérieur, vers nos proches. Le texte dit... Continuez à reconnaître publiquement votre foi. Encore une fois, je pourrais poser la question facile. Continuez à reconnaître publiquement notre foi. Oser confesser, témoigner de sa foi, ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce que le texte nous invite à faire. Continuez, ce n'est pas seulement Commencez, ou faites-le une fois. Continuez, ça demande de rester ferme dans ses dispositions, de persévérer à témoigner de notre foi, persévérer à proclamer certaines vérités, même si la personne en face est fermée, même si la dernière fois qu'on l'a fait, ça s'est mal passé avec cette personne. Alors, il faut bien sûr une certaine dose de sagesse. On ne va pas aller assommer les gens à coups de Bible. Mais le texte, quand même, nous appelle à persévérer, à continuer de reconnaître publiquement notre foi. Ça veut dire aussi qu'il faut conserver toutes ces vérités, tous ces fondements qu'on a vus au début du texte. On ne peut pas édulcorer le message de l'Évangile en disant on va annoncer que ce qui est un peu joli et facile à accepter, c'est-à-dire que Dieu nous aime, et voilà. Mais il y a tout le message de l'Évangile à apporter, tout le message de la bonne nouvelle à apporter pour qu'il soit efficace. Ces derniers temps, à la Frée, on nous a partagé la vision que la Frée a préparée pour les églises. Alors des fois, dans les églises, on se sent très détaché de la Frée. Finalement, à quoi ça sert d'être attaché à la Frée? Qu'est-ce qu'ils font pour nous vraiment? Mais la Frée nous pousse, elle nous donne un moteur du dynamisme. Elle réfléchit à des choses pour nous. Elle nous permet de nous mettre en avant, chacun en tant qu'église et puis toutes les églises ensemble. Et la Frée récemment a réfléchi à une vision, un moteur pour nos églises. Et je trouve ça intéressant que cette vision parle justement de partager la bonne nouvelle autour de nous. Cette vision, elle ne se centre pas sur le fait qu'il faut nous approcher de Dieu, grandir dans la foi, grandir ensemble en tant que communauté, avoir de plus en plus de membres. Mais cette vision, elle parle d'apporter l'amour de Dieu autour de nous. Et tout à l'heure, à la fin du culte, on aura l'occasion de voir une petite vidéo qui présente cette vision. Et moi, je vous encourage à prendre cette vision avec vous à la maison et réfléchir comment chacun d'entre vous, vous pouvez la mettre en pratique cette semaine, ce mois-ci, dans l'Église et en dehors de l'Église. Cette vision, elle est ancrée sur le texte biblique. Et le texte qu'on lit ce matin nous amène exactement dans la même direction que cette vision-là. Alors ça, c'était un point pour œuvrer auprès de nos proches. Et il y a un autre point qui est précisé dans le texte, c'est avoir le souci du bien de l'Église. Alors là, on revient de nouveau sur l'Église en deuxième position. Avoir le souci du bien de l'Église. C'est-à-dire veiller sur les uns, sur les autres dans l'Église. Avoir le souci du bien de l'Église, veiller les uns sur les autres, c'est d'abord le fruit de notre volonté. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va venir naturellement, qui est facile à faire, mais il y a la notion de notre volonté et d'un devoir qui entre en ligne de cause. On a un devoir les uns envers les autres. Alors ça, c'est difficile à accepter aujourd'hui. On n'aime pas trop qu'on nous dise qu'on a des devoirs. On aime bien être libre, pouvoir faire ce qu'on veut faire. Mais pourtant, c'est vrai, on a un devoir de veiller les uns sur les autres dans l'Église. Et cette vigilance, veiller les uns sur les autres, elle va même aller jusqu'à provoquer une certaine stimulation dans la communauté, une incitation à faire de bonnes œuvres. C'est ce que le texte nous dit. Et en fait, si on y réfléchit, c'est vrai que c'est assez logique. Lorsqu'on fait le bien envers quelqu'un, on s'attend généralement à ce que ça revienne dans l'autre sens à un moment donné. Quand on fait le bien envers quelqu'un, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait derrière un coup de couteau dans le dos ou quelque chose comme ça, mais le fait de faire le bien les uns envers les autres, ça nous pousse à nous élever et à aller sur ce chemin de bonnes œuvres. Et c'est vrai aussi pour les enfants, les jeunes de notre Église qui nous observent, qui regardent comment nous agissons en tant que chrétiens, alors que vous soyez parents, moniteurs ou amis d'une famille, la façon dont vous vous comportez en tant que chrétien est un modèle pour ces enfants-là, pour qu'ils aillent eux aussi sur ce chemin des bonnes œuvres. Alors nous sommes obligés de passer par la case effort pour ces bonnes œuvres, pour veiller les uns sur les autres. C'est une décision de notre volonté à prendre. Et puis le fait de veiller sur nos frères et nos sœurs, c'est le bon exemple aussi d'une participation fidèle à la vie de la communauté chrétienne locale, à la vie de l'Église. Et le texte est assez clair là-dessus, « Ne désertons pas notre assemblée ». C'est une parole forte. Ça me fait penser aussi à ce psaume qui dit « Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble ». Ne désertons pas nos assemblées. On peut se demander pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux demande à ses lecteurs de ne pas déserter les assemblées. Pourquoi ils désertaient l'assemblée ? Peut-être qu'ils étaient persécutés à cette époque-là, qu'ils allaient dans d'autres villes où la persécution était moins forte, ou simplement ils se détournaient de l'Église pour ne pas montrer qu'ils étaient chrétiens. Peut-être qu'ils étaient tentés de retourner vers un certain judaïsme. Finalement, ils se détournaient du christianisme pour retourner vers ceux qu'ils connaissaient mieux. Peut-être aussi qu'à l'époque, le fait que le retour du Christ ne soit pas encore là, alors qu'on l'attendait tellement, ça a découragé certains. Il y a beaucoup de raisons, et il y aurait beaucoup de raisons aujourd'hui encore, pour déserter les assemblées. Surtout quand on voit les derniers événements terribles et qui ont souvent des motifs religieux, notamment, je pense aux attentats à Paris. Peut-être que ce serait plus simple pour chacun de dire bah, « en fait, on est chrétien, mais chacun chez soi, et puis on ne va pas le crier trop fort ». Mais ce ne serait pas répondre à l'appel de Dieu pour son Église sur cette terre. Et il faut veiller et s'encourager d'autant plus parce qu'on voit le jour s'approcher. Le jour s'approcher, c'est le jour du retour du Christ. Et aujourd'hui, plus qu'hier, on se rapproche du jour du retour du Christ. Et puis on voit des choses qui se passent. Où on se dit finalement, ça serait bien que le Christ revienne aujourd'hui. Alors puisqu'on s'approche du jour du Christ, soyons d'autant plus vigilants les uns envers les autres. Ayons ce souci de l'Église, du bien de l'Église. Ayons ce souci de rejoindre les personnes que nous connaissons et qui ne connaissent pas Dieu, de reconnaître publiquement notre foi auprès de notre famille, de nos amis, de nos voisins. Alors ce texte, finalement, nous a rappelé les fondements de notre foi. J'espère que ces fondements de notre foi vont nous pousser pendant ce culte à louer Dieu, pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. À louer Dieu parce qu'il a ouvert ce chemin par Jésus pour que nous ayons un accès direct avec lui. Et c'est vraiment une grâce qui nous a été faite à nous, chrétiens d'aujourd'hui, de pouvoir être en accès direct à Jésus, à Dieu. Ces fondements de la foi, ils nous apprennent à cultiver une relation juste avec Dieu et à œuvrer auprès de nos proches, à partager publiquement notre foi et à nous encourager les uns les autres. Alors pour terminer, j'aimerais vous laisser deux questions. Alors je vous pose une question, mais ce n'est pas une des deux questions que je vous laisse. Qui a un smartphone ici avec lui ? Quelques-uns. Je vous invite à sortir votre smartphone, en particulier l'application BlocNotes, ou alors à sortir un BlocNotes à l'ancienne avec papier et crayon. Et j'aimerais vous laisser ces deux questions-là. Et alors moi, je vais retourner m'asseoir, je vous laisse face à ces deux questions et je vous invite à y réfléchir et peut-être à noter un élément de réponse ou quelque chose que vous pouvez emmener avec vous, que vous pouvez aussi garder pendant le culte, pendant que nous louons Dieu et que nous prenons la scène ensemble. La première question, c'est de quelle manière pourrais-je encourager l'une ou l'autre des personnes de l'Église, de mes frères et sœurs dans l'Église, aujourd'hui, demain, cette semaine. Et la seconde question, que pourrais-je faire cette semaine ou ce mois-ci pour partager ma foi autour de moi ? Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec ces deux questions et puis ensuite on enchaînera directement avec un temps de louange pour louer Dieu de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous.